Pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme.
You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me?
Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello!
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eau de Radio en ce mardi 13 janvier 2026. Il est 14h, pile, oui, encore, comme hier, et comme demain sans doute. Malgré les crises internationales, malgré les rébellions à travers le monde, malgré les menaces venues de l'autre côté de l'Atlantique, malgré le froid, la pluie, le vent et autres phénomènes climatiques, nous, à Cinéscent, nous sommes bien présents et présentes pour notre émission hebdomadaire à écouter confortablement sur son canapé. Les plus téméraires sont présents avec moi. Eux seuls peuvent braver vents et tornades pour venir vous rejoindre dans le studio. Bonjour Jean-Jacques et bonjour Patrick.
Bonjour Annie.
Vous allez
bonjour
bien ?
Bonjour Annie. Bonjour Jean-Jacques.
Oui, ça va bien. Braver vents et tempêtes.
Vents et tempêtes, absolument. Il y a eu trois flocons la semaine dernière.
Les trois flocons de neige, ouais, incroyable.
C'est dingue, on est en hiver et il fait froid.
Ah, je l'ai pris en photo.
C'est vrai ?
Ça n'a pas duré longtemps.
Non, c'était plus de la poussière d'ailleurs, de neige.
Poussière d'étoiles, oui.
Et oui. Et c'est vous, Jean-Jacques, qui allez nous dévoiler dans quel univers cinématographique nous allons plonger au cours de cet épisode numéro 13 de Cinéscent.
Alors, la vous question est simple. Qu'est-ce qu'un film d'horreur ?
Ah non !
Eh bien, c'est un film qui a pour objectif de susciter chez le spectateur un sentiment d'effroi. À votre avis, les films d'horreur ne servent qu'à se divertir comme tous les autres films ?
Bah oui.
Eh ben non, la réponse c'est non. Eh ben non, la réponse c'est non. Ah bon ? Les films d'horreur nous réservent bien des surprises. En effet, contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont des films qui ont des effets bénéfiques sur notre corps ainsi que sur notre cerveau. Oui, parce que selon les scientifiques, il est compliqué d'expliquer exactement pourquoi nous aimons nous faire peur. Bon, il semblerait que ce plaisir à se faire peur soit en lien avec notre personnalité. Les parties du cerveau réagissant à la peur et au plaisir sont étroitement liées, ce qui expliquerait pourquoi certains aiment tant les films d'horreur, même s'ils savent en avance que ces films réveilleront leurs peurs les plus profondes. C'est le plaisir de se faire peur en toute sécurité qui plaît. Oula, parce que quoi, on regarde les films d'horreur pour en ressentir les émotions fortes, toujours depuis un endroit sécurisé comme son salon ou une salle de cinéma. Donc, regarder des films d'horreur ne sert pas uniquement à gaspiller du pop-corn en se faisant peur. Ces films nous aident à gérer notre stress et nous font oublier tous nos problèmes pendant quelques heures. Par contre, il n'y a pas que des bons effets. Vos mains vont devenir moites et vous aurez la chair de poule. Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier, ou pas, dans notre 13e épisode.
Au hasard, ça fait peur. Voilà. En 2020, oui. pendant plus de 3 mois, la plupart de la population humaine et animale de la Terre a été exterminée par des créatures aveugles arrivées d'on ne sait où. Ces créatures qui attaquent tout ce qui émet du bruit ont une ouïe hypersensible et une peau indestructible et blindée. Parmi les survivants, la famille Abbott, constituée des parents Evelyn et Lee et de leur fille Regan, atteinte de surdité congénitale, et leur fils Marcus et Beau. Ils cherchent des vivres, des médicaments et des objets divers dans le magasin abandonné d'une ville déserte.
Voilà le point de départ de Sans un bruit, un film à la fois étrange et dérangeant. La menace bien réelle peut surgir de partout et de nulle part. Aussi rapide que l'éclair, les prédateurs fondent sur leur proie pour les tuer au moindre bruit, au moindre son échappé par maladresse, comme le bruit d'un vaisseau spatial que fait retentir le petit Beau, un des deux fils de la famille.
Oui, alors le film de John Krasinski, sorti en 2018, eh bien il se part de jolis moments d'émotion, oui. une relation complice d'un père avec son fils, rompant enfin le silence au bord d'une chute d'eau sécurisante. Plus compliquée sont les relations entre le père et sa fille, entre culpabilité et incompréhension silencieuse. Alors, on évolue en terrain inconnu, certes. On voit certains moments arriver de loin. Mais, comme dirait Patrick, quand il se dessine à l'écran, rien n'empêche une petite émotion de monter malgré tout. À moins que le masqué soit de plus en plus gnangnan, question sentiment. Cela fait écho à l'absence relative de dialogue, remplacée par les signes, les gestes tendres, des regards complices ou inquiets, une chanson partagée.
Mais, comme dirait Jean-Jacques, la plupart des choses se passent des mots. Le silence est leur plus parfait écrin. Sans un bruit, tenait là une sorte de Graal. Il avait tout ou presque pour devenir un classique de la SF et de la terreur, un marqueur de son époque, comme, disons, Alien, le fut pour ma génération qui eut la chance de le voir en salle à sa sortie. Il y avait un excellent sujet, une menace mortelle permanente que fait peser sur les personnages le moindre bruit qu'ils feraient dans leurs activités les plus ordinaires. D'excellents acteurs, en particulier Emily Blunt, oui. Hein, dont on connaissait déjà le talent.
Et le beau regard.
Et oui, et une excellente mise en scène, et au moins la plupart du temps de la part de John Krasinski, aux commandes de ce petit film qui était visiblement un projet personnel.
Et il faut bien admettre que cela faisait très longtemps qu'un film de monstres n'avait pas engendré en nous un tel stress, une telle tension quasi permanente, voire de vrais moments de peur, ce qui justifia la très bonne réception critique que le film a eue aux USA.
Mais... Et à ce propos, avec une recette globale de près de 340 millions de dollars...
Eh oui.
Pour un budget initial de 17 millions.
La culbute est bonne.
Ben oui, l'affaire fut assez rentable pour... Eh ben pour tenter quoi ? Ben un deuxième opus qui est sorti. Comme l'annonce le titre, peu de documents sonores à écouter pour ce film. De la musique, tout de même. Et elle est signée Marco Beltrami.
En 2001 sort « L'échine du diable », troisième long-métrage de Guillermo del Toro. Un film qui, pour sa production, a bénéficié de l'appui financier du réalisateur Pedro Almodovar et de son frère Agustín.
Alors de quoi il s'agit ? Oui. Eh bien, alors que la guerre civile déchire l'Espagne, le jeune Carlos trouve refuge dans un orphelinat perdu dans la campagne. Orphelinat dirigé par Madame Carmen et Cazares, un médecin. Le jardinier et sa fiancée enseignante aident le couple. Cazares et Carmen soutiennent les loyalistes républicains et cachent l'or de la cause républicaine. L'orphelinat a également fait l'objet d'attaques de la part des troupes de Franco. À la nuit tombée, Carlos est mis au défi par ses camarades. Il doit traverser la cour de l'établissement pour se rendre à la cuisine, l'obligeant à passer devant la maison de l'antipathique jardinier. Et une fois sur place, eh bien Carlos entend d'étranges soupirs et découvre dans le sous-sol de la bâtisse le fantôme d'un enfant mutilé. Bande annonce.
Carlos. Et vous ? Vous croyez aux fantômes ?
Aide-moi.
Je pense en avoir vu un, ici.
En classe ! On se dépêche !
Qu'est-ce qu'un fantôme ?
Aide-moi.
Qui soupire ?
Un événement condamné à se répéter indéfiniment. Regarde ces gamins comme ils sont affamés.
Tu vis ici, près du bateau ?
Quelque chose de mort qui semble encore être en vie.
Un petit grain pour la force. Un petit grain pour la force.
Un sentiment suspendu dans le temps.
Et le fantôme, où il est ?
Il est arrivé avec la bombe.
Comme un insecte pris dans l'ambre.
J'ai vécu en espérant qu'après viendraient des jours meilleurs. Il n'y aura pas de jour meilleur comme il n'y aura pas d'après.
À partir d'une histoire classique de fantômes, le réalisateur se démarque en intégrant des éléments du mélodrame historique, du film à suspense et du récit d'apprentissage. Del Toro ponctue également son film de multiples références, allant du surréalisme de Los Olvidados de Luis Buñuel à Au revoir les enfants de Louis Malle, à travers des images qui conjuguent l'onirisme à la terreur, la poésie à la noirceur.
Alors, ce qu'il faut savoir, Patrick et Annelise, c'est que Del Toro aime les monstres, qui ne sont pas tout à fait, et qu'il déteste les hommes plus monstrueux que les monstres eux-mêmes. Eh bien, L'Échine du Diable en est un exemple frappant. Précurseur des films de fantômes qui marqueront le cinéma au début des années 2000, Del Toro se hisse parmi les réalisateurs les plus importants de sa génération. Porté par un univers à la fois gothique et fantastique, il signe un conte cruel sur l'enfance, empreint d'histoire, de nostalgie, de poésie, où l'horreur n'est pas forcément là où on l'attend.
Doté d'une interprétation remarquable de Marisa Paredes à Eduardo Noriega, en passant par Fernando Tierve et Íñigo Garcés, L'Échine du Diable est un film fondateur du nouveau cinéma fantastique espagnol avec Les Autres, d'Alejandro Amenábar.
Dans la bande originale, on retrouve Yo no sé que me anaco tuoros.
C'est du japonais ou quoi? Bon, écoutez, on vous pardonne parce qu'on n'aurait pas fait mieux. Quoi. C'est quoi d'ailleurs
c'est
ce morceau?
C'est musique.
Je vous laisse continuer puisque vous me coupez.
Non,
depuis tout à l'heure,
allez-y.
Vous voulez me couper la parole. Allez-y. Non, je vous en prie. Terminez la phrase, vous l'avez sous les yeux en plus.
Bah, non, mais on peut dire que c'est un tango.
Oui, on peut le dire, oui.
De 1931.
Tout à fait.
De part et deux et par Carlos Gardel, un Français.
Oui.
Mais
en
à,
plus,
Toulouse,
à
Toulouse,
Toulouse,
Toulouse, est mort à l'âge de 44 ans. Dans quoi, Annelise ?
Eh bien, dans un accident d'avion en Colombie.
Tout à fait.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios y al besar mis labios se olvida el dolor. Para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luz de ilusión que alumbra la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son
Je suis heureux, Anne-Lise, de vous avoir fait découvrir Carlos Gardel, hein, qui était une star immense.
Absolument, c'est vrai, tout à fait.
Qui est mort à l'âge de 44 ans.
C'est incroyable, qui était toulousain.
Oui, il était né.
Il n'a pas vécu longtemps en France.
Oui, quand même.
Mais il a fait du tango, son arme principale de séduction.
D'accord.
Bon, alors l'heure est grave.
Ah. Bien.
Oui. Il nous faut resituer un peu le contexte dans lequel sort Scary Movie, puisqu'à la fin des années 90, on a eu droit à une nouvelle vague de films d'épouvante horreur, initiée notamment avec le Scream de Wes Craven, que vous avez vu, Annelise, bien sûr.
Tout à fait, j'ai vu tous les films.
Scary Movie reprend la base de ce film pour en faire une parodie déjantée qui fera connaître au grand public le réalisateur Kenan Ivory Wayans, ainsi que ses frères. J'ai du mal à le dire, c'est un peu bizarre comme nom. L'histoire de Sydney, l'héroïne du film de Craven, est donc détournée et s'y ajoute d'autres éléments empruntés à « Souviens-toi l'été dernier », par exemple, « Sixième sens », « Matrix » ou encore la pub Bud et son fameux « Waza » qui avait à l'époque créé un incroyable buzz. Ce gimmick fut d'ailleurs intercalé dans le film des mois après la fin de son tournage parce que le producteur la trouvait marrante. Le film créa ainsi une connivence avec son public qui s'amusait à reconnaître toutes les références pop culturelles détournées tout en étant une véritable capsule temporelle de son époque. Loin d'être une comédie très subtile, cela reste encore aujourd'hui une bonne récréation. Mais de quoi s'agit-il ?
Eh bien, Drew, la coqueluche d'un campus, est expédié dans l'au-delà par un maniaque portant un masque de fantôme. Au comble de la terreur, ses camarades de lycée s'interrogent. Est-ce l'acte d'un esprit dérangé ou la vengeance de celui qu'ils ont renversé et laissé pour mort quelques mois plus tôt ? Tiens, voici les premières minutes de ce premier opus de la saga.
Allô ?
T'as envie de t'amuser ?
Qui parle ?
Dis-moi ton nom et je te dirai le mien.
Oh, tu manques pas de culot, toi ?
C'est quoi ce bruit ?
Oh, pardon, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas.
Non, ce crépitement-là.
Oh, je fais du pop-corn et je m'apprête à regarder une vidéo.
Oh, qu'est-ce que c'est ?
Oh, juste un film d'épouvante.
Tu aimes les films d'épouvante ?
Mm-hmm.
Quel est celui que tu préfères ?
J'en sais rien.
Réfléchis.
Oh, ça y est, Kazam, celui où Shaq interprète un génie.
Et c'est pas un film d'épouvante, ça ?
C'est que t'as jamais vu jouer Shaq.
T'as une très jolie voix, tu sais.
C'est gentil, ça.
Tu m'as toujours pas dit comment tu t'appelais.
Pourquoi veux-tu connaître mon nom ?
Parce que je veux savoir qui je suis en train de regarder.
Quoi ? Que veux-tu dire ?
Jolie poitrine.
Qu'est-ce que tu me veux, hein ?
Je veux aussi voir tes entrailles.
Écoute, sale ordure. Cette fois, ça suffit. Tu vas me ficher la paix, ou alors...
Ou alors quoi ?
Ou alors mon petit ami va bientôt rappliquer un type noir qui va te foutre une raclée.
Non, sans blague.
Oui.
Celui qui se maquille et qui se déguise en femme.
L'humour est noir.
Ah bon ?
Scabreux et surtout le plus pétardant des frères Wayans ne fait pas dans la dentelle. Il est omniprésent entre les meurtres et même épandant. On apprécie surtout l'impertinence et le sens de la répartie.
Alors c'est drôle, c'est irrévérencieux, avec un pompage en règle des poncifs des films d'horreur. Par exemple, le groupe ne se sépare pas, référence à Scream, bien sûr. Oui. On ne court pas dans la forêt tout seul.
Jamais.
Et on ne répond pas au téléphone. Enfin, faut vous dire combien de fois. Les gags sont savoureux tellement ils sont potaches. Des gags cartoonesques à gogo, au mauvais goût revendiqué, une satire qui tranche dans le vif. Un jeu de massacre humoristique et inspiré dans lequel le public complice participe avec une jubilation communicative.
Alors la référence à Scream de Wes Craven, elle est claire.
Hein. Ah bah oui.
Le masque que porte le tueur en est une évidente filiation. À noter, vous aimez bien les anecdotes,
absolument.
Patrick, à noter que Scary Movie fut le gros projet concurrent d'un petit film nommé Scary Scream Movie, film
tout
réalisé par John Blanchard, avec notamment Julie Benz et Tiffany Amber Thiessen. Je ne sais pas ce que c'est devenu ce film.
Je ne sais pas.
Bon, enfin, côté box-office, ça a plutôt bien marché, puisque le film a rapporté 278 millions de dollars dans le monde entier, pour un budget de 19 millions de dollars.
Ouais, c'est bien, ça va.
La bande originale contient une variété de morceaux issus de plusieurs genres, dont Too Cool for School des New Yorkais Fountains of Wayne.
pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Oui, oui, bien sûr. Sur 91.3, aux deux radios, bien entendu.
Allez, je vous propose de faire un petit retour dans le catalogue ancien des films d'horreur. Le premier court-métrage d'horreur muet est français. Il date de 1896, l'année de l'invention du cinéma, d'ailleurs. Il a été réalisé par Georges Méliès. Il s'intitule « Le manoir du diable ».
Oh là !
Ouais, bon, alors, ceci dit, on a à peine le temps d'avoir peur puisqu'il ne dure que 2 minutes.
Ah ben quand même.
Dans les années 30, le cinéma d'horreur donne dans les monstres qui marquèrent les tout débuts du film du genre. Pour autant, il tenait plus du fantastique. Il faut attendre les années 60 pour assister à la naissance du film d'horreur avec du sexe et du gore.
En 70 sort La nuit des morts vivants de Georges Romero, un petit film de morts vivants qui va créer un genre à part entière appelé les zombies.
200 000 euros, je crois, de budget pour la création du film.
Ça va. Avant ce film, d'ailleurs, les zombies n'étaient que des esclaves, pas vraiment morts, mais dénués de volonté. Eh bien, Romero crée une créature nouvelle, un mort avide de chair fraîche qui évoque plus l'apocalypse que des pratiques occultes exotiques.
La dernière maison sur la gauche de Wes Craven sort en 71. Deux jeunes filles sont torturées, violées, puis tuées par une bande de jeunes délinquants désœuvrés. Alors, en dévoilant à une Amérique auto-centrée sur sa guerre du Vietnam ce qui cloche à l'intérieur même de son pays, Craven frappe les esprits, es-tu là. Avec lui, la frontière entre fiction cinématographique et réalité devient floue. L'Exorciste, sorti en 1974, a été réalisé par William Friedkin. Vous l'avez vu, Anne-Lise ?
Malheureusement, oui.
Ah, c'est génial.
Oui, moi aussi, lors de sa sortie, d'ailleurs.
Ah oui, c'est magnifique.
Ah bah pas moi.
Moi aussi, je l'ai vu au Normandie, sur les Champs-Élysées.
Je l'ai vu quand il est ressorti.
Et dans donc réalisé dans une mise en scène quasi clinique, froide et tranchante, pleine de cruauté envers ses personnages. Le film distille une atmosphère poisseuse et glauque. Il place le spectateur au cœur d'une lutte sans merci entre le bien et le mal. L'Exorciste a suscité une imagerie qui a marqué profondément le cinéma d'horreur.
Alors pour finir, à la frontière entre l'horreur et le fantastique, un monstre, une créature a marqué. C'est celle créée par l'assemblage de cadavres ramenés ensuite à la vie par le savant Victor Frankenstein. Et dont voici une réinterprétation musicale avec Psychosis.
It's alive. Oh, death, have I conquered thee? Bend thee to my will. Mother, do you know what this means? Elizabeth, I can save us. Father! Why is it moving? Why is it breathing? It should be dead.
No, this is impossible. No, how is it alive? What is it doing?
Stop! Stop twitching. Get away. Fly away from here. Away and get something. Close your eyes. No, don't touch me. Keep away. Your brutish tears are a mockery. A pantomime. Can't take it back. Shut the lid. Walk away. Walk away. If I walk away, can I end the spell? Father, oh, I am sorry for my pride. Now the devil doth abide. I'm a fool to have replied. So... flesh running red, waking dead in my head, by my bed, grinning over me.
Back away from me!
Fallen, I need to flee, you cannot be. You're a monster born of me, living next to thief of thee.
Go!
Compromise, abandon now your infant reason. Thing unfeeling, how I'm reeling by the side of death. Into the blood red sunrise with your mark. No, don't touch me, keep away. You're nothing new, you're stolen parts gathered in the dark.
Combien
combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Et oui, c'est dingue. Et vous l'avez reconnu, nos petits jingles, ciné, télé et canapé. On va vous parler du coup des films qui sortent à la télé, chacun un film, de cette semaine que vous allez donc pouvoir regarder sur votre canapé. On commence par qui ? Par vous, Jean-Jacques ?
Oui, je veux bien.
Allez, allez, Jean-Jacques.
Alors donc, ce sera jeudi pour moi, après-demain. À 20h55 sur T18. Vous savez, la nouvelle chaîne. Là, qui...
Oui.
Alors, c'est, ça s'appelle Les Têtes de l'Emploi. C'est réalisé par Alexandre Charlot et Franck Magnier. Alors, de quoi il est question ? Eh bien, ce sont trois personnages principaux, Stéphane, Cathy et Thierry, qui sont les meilleurs employés de l'Agence pour l'emploi de leur ville. Oui, mais seulement le problème, c'est que les résultats sont tellement bons dans cette agence qu'il n'y a plus de clients, donc elle va devoir fermer. Et du coup, ben, les trois collègues se retrouvent à leur tour chômeurs. Alors, ils ont une idée saugrenue, ben, c'est de créer une pénurie d'emplois pour sauver leur poste. Voilà, c'est une comédie, vous l'avez compris, de 2016. Alors, c'est avec Elsa Zilberstein, Franck Dubosc, François-Xavier de Maison, Nicolas Vaude, Patrick Bouchité. Voilà. C'est un petit moment sympa à placer.
Ça fait peur quand même.
Non.
Mais si, il y a Franck Dubosc, donc ça fait peur.
Non, il joue un rôle, il sort de son personnage traditionnel.
D'accord.
Il est pas mal du tout dans le film, voilà. Okay. C'est jeudi, donc à 20h55 sur T18, Les Têtes de l'Emploi.
Les Têtes de l'Emploi, d'accord.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Alice ?
Oh bah oui, vous peut-être, non ?
C'est comme vous voulez.
Allez-y, Patrick. Bon, allez-y.
Alors le 1 ou le 2 ?
Le 1.
Le 2, donc. C'est bien ce que je veux. Alors je vais vous parler d'un film de Julie Taymor qui est sorti en 2002.
Ah bon ?
Oui,
ah.
Qui va passer vendredi 16 à 20h50
à quelle heure ?
Sur TCM, 20h50, sur TCM Cinéma.
Oui, d'accord.
C'est un film avec Salma Hayek,
oui.
Alfred Molina et Antonio Banderas.
D'accord.
Ça ne vous dit rien ?
Absolument rien.
À l'âge de 18 ans, Frida Kahlo est victime d'un accident de bus.
Ah oui.
Le choc est tel que ses entrailles se déchirent, que ses os se brisent en divers endroits. Alitée durant de longs mois, son corset de plâtre lancérant à son corps meurtri, la jeune femme s'initie à la peinture en scrutant son image immobile dans un miroir suspendu.
Mmh.
Quelques temps plus tard, elle sollicite l'avis de Diego Rivera sur ses toiles. Le célèbre muraliste succombe à son génie artistique en même temps qu'à ses charmes. Il faut dire que Salma Hayek, elle est quand même pas vilaine. Débute alors une passion tumultueuse marquée par des expositions à l'étranger, des trahisons à répétition et des séjours infructueux à l'hôpital. Mmh. C'est un biopic, donc vous l'aurez compris, qui nous met en évidence la relation que l'on peut avoir avec l'art, l'art et la séduction,
oui.
La séduction par l'art
et la souffrance du corps.
Et la souffrance du corps, bien sûr. Et la souffrance du corps.
Et l'art donc, comme une catharsis aussi.
Oui.
Tout à fait. Je vous le recommande, c'est un superbe film. Frida, donc de Julie Taymor avec Salma Hayek, Alfred Molina et Antonio Banderas. 20h50, vendredi 16, sur TCM Cinéma.
Eh bien, moi, on va partir samedi 17 à 22h45 sur Paris Première avec un film d'Agnès Jaoui qui s'appelle Le goût des autres.
Le goût des autres, ah oui, magnifique.
Et voilà. Avec qui et,
Catherine Fraud.
Oui, Jean-Pierre
Bacri,
Alain Chabat, Agnès Jaoui, Gérard Lanvin, etc. etc.
Chabat, oui.
Oui, aussi.
Et un petit Alvaro aussi, n'oubliez pas.
Oui,
Alvaro.
C'est vrai.
Magnifique Alvaro.
Castellas, qui est un chef d'entreprise au quotidien très structuré, se consacre principalement à son travail et à ses cours d'anglais qui représentent pour lui un rare échappatoire. Cependant, sa routine monotone prend une tournure inattendue lorsqu'il assiste à une représentation théâtrale où sa professeure d'anglais, dont il est tombé sous le charme, joue un rôle captivant. C'est le coup de foudre amoureux qui pousse à remettre en question les priorités et sa vie entière. C'est un très beau film,
oui.
Avec des acteurs incroyables et une écriture
c'est
vraiment...
C'est la bande habituelle de Jamie Lattery.
Tout à fait,
hein.
Ouais.
Et c'est la collision de deux mondes aussi, celui de l'entreprise et celui
de l'art.
Celui de l'art, oui. Et puis de deux aussi personnalités complètement opposées, dont un hyper rigide et une personne qui va se laisser porter par ses émotions.
Très bien, et tout ça
voilà. Tout ça, c'est sur Paris Première à 22h45.
Oh mon Dieu, mais il faut veiller tard.
Et oui.
Combien ?
Le 17.
Le 17,
samedi donc.
D'accord,
tout
très
à
bien.
Fait.
C'est fini ?
D'accord.
Bah,
fini
écoutez, oui, c'est bon.
Et bien voici venu le temps de Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, sorti en 1974, un film mythique pour tous les adeptes des films d'horreur et pourtant... Pourtant, il a failli rester au placard.
Mais l'histoire se passe au Texas, où des habitants découvrent des tombes profanées et des cadavres exposés aux yeux de tous. Cela n'empêche pas un groupe de 5 jeunes gens de continuer à traverser le pays pour se retrouver dans une maison abandonnée appartenant aux grands-parents de l'un d'entre eux. Les jeunes ne sont pas encore au bout de leur peine lorsqu'ils se frottent aux habitants du coin.
Massacre à la tronçonneuse, on a rarement fait un titre plus auto-explicatif. Au programme, hémoglobine, souffranche, crochet de boucher.
J'adore.
D'ailleurs, c'est ce qui a valu au film d'être censuré.
Eh oui.
Voilà, et pendant près de 3 ans, dans toutes les salles obscures du monde entier. Mais d'ailleurs, sorti d'abord en salle en France en 74, la commission de contrôle des films prononça son interdiction. Celle-ci ne fut levée qu'en 82, vous imaginez. Dans l'intervalle, le film ressortit avec une classification X. Ces retournements successifs témoignent du malaise qu'on peut éprouver en visionnant un film d'épouvante et de terreur qui conserve aujourd'hui une sorte de suprématie dans le genre. Alors en fait, il y a très peu de sang, mais l'effroi y est total. Et la bestialité du héros tueur propre à nous retourner l'estomac. Tiens, bande-annonce.
Le chef-d'œuvre de l'horreur et de l'épouvante, Massacre à la tronçonneuse. Cette histoire vraie est le plus horrible, le plus monstrueux crime qu'on ait jamais vu sur un écran.
Arrête, j'entends quelque chose. Arrête !
Un film à vous couper le souffle.
Arrêtez !
Terrifiant, mais réel.
Aidez-moi.
Personne ne survivra au meurtrier fou. Massacre à la tronçonneuse.
Bénéficiant d'un budget très réduit et d'une distribution de comédiens quasi amateurs, ses atouts résident bien évidemment ailleurs, dans la réalisation ultra-inventive, frénétique, audacieuse, et dans sa thématique, sorte d'apocalypse nihiliste où se côtoient la barbarie décomplexée, l'esprit critique, l'humour noir et le second degré.
Alors fortement influencé par Psychose d'Hitchcock et La nuit des morts vivants, tiens, le revoilà, de Romero, Hooper va élargir la brèche. Son film se veut une sorte de relecture de la société américaine. Alors évidemment, nous sommes au début des années 70. Le gouvernement s'embourbe dans un conflit vietnamien qui tourne à la débâcle. Cette guerre surmédiatisée jette à la face du globe son lot de barbarie de masse, hein, vous vous rappelez ?
Oui.
Bombardement au Népal, exécution sommaire.
Au Népal, au Napalm.
Au Népal, au Népal, c'est n'importe quoi ça.
Oh, c'était loin quand même du Vietnam.
Oui.
C'est pas à côté, oui, mais bon.
C'est pas grave.
En vol d'oiseau, c'est pas très loin.
Oui, bon, ça sera tout. Le président Nixon a dupé son monde lors du scandale du Watergate et le citoyen américain n'a plus confiance en personne. Voilà. Cette désillusion, Hooper la retranscrit en image.
Hooper puise également dans l'histoire criminelle des États-Unis via le personnage de Leatherface, inspiré d'Ed Gein, profanateur de tombes et tueur en série qui devint un cador du fait divers durant les années 50 avec ses 8 victimes confirmées ou supposées qui par ailleurs inspira Alfred Hitchcock pour son personnage de Norman Bates dans Psycho. Le groupe rock The Ramones a rendu hommage au massacre avec sa chanson Chainsaw.
Sitting here with nothing to do. Sitting here thinking only of you.
2004 sortait Saw, réalisé par James Wan. Il s'agit là du premier opus d'une franchise qui en compte 11. Oui, 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 vous m'avez bien entendu, 11. Bon, sauf que dans ce genre de film, quand on a vu le premier, bah, on les a tous vus. Oui, d'accord, mais à part ça, de quoi ça parle, me direz-vous ? Bah, Steigen Street, c'est la rue où se cache Jigsaw, le tueur aux puzzles. Steigen Street, la rue du Styx, est l'un des trois fleuves de l'enfer grec, vous le savez. Et c'est bien l'enfer que nous décrit ce film, un enfer où les pécheurs sont punis pour leurs fautes, lourdement punis même, car obligés, dans le meilleur des cas, de s'infliger les pires sévices corporels en expiation des crimes les plus ou moins graves. Il s'agit donc d'expiation, de rédemption, de rachat de ses fautes par la mutilation ou la mort. Bande annonce.
Bonjour Adam, docteur Gordon, je veux jouer à un jeu.
Le tueur au puzzle.
Vous devez essayer de traverser ces barbelés.
Techniquement parlant, ce n'est pas un vrai meurtrier. Il n'a jamais tué personne.
Docteur Gordon, votre but dans ce jeu est de tuer Adam. Si vous n'y arrivez pas, Diana mourra.
Il se débrouille pour que ses victimes se tuent elles-mêmes.
J'en ai assez de ces gens qui n'apprécient pas leur chance de vivre. Je donne un but à votre vie.
On dirait que notre ami le tueur au puzzle aime assister en direct à ces jeux pervers.
Il ne veut pas qu'on coupe nos chaînes. Il veut qu'on se coupe le pied.
La plupart des gens n'ont aucune gratitude d'être en vie. Pas vous.
En réalité, vous êtes une droguée, c'est ça? Croyez-vous que c'est pour ça qu'il s'en est pris à vous?
Il m'a aidé. Ne crois pas ce que dit Adam, il ment.
Vivre ou mourir, à vous de choisir.
Alors, Peach, si vous voulez. Dans une salle de bain désaffectée, le photographe Adam Starhate et la docteure Lawrence Gordon se réveillent au coin opposé de la pièce. Enchaînés par leurs chevilles, il y a des canalisations. Ça ne s'arrange pas, le truc.
Ah non.
Au milieu de la pièce, un corps est allongé sur le sol dans une mare de sang, tenant un revolver et un magnétophone.
Lawrence et Adam trouvent dans leur poche des cassettes sur lesquelles il est écrit « Écoutez-moi ». Après avoir enclenché les cassettes, celle d'Adam lui indique qu'il doit s'échapper de la salle de bain. Et celle de Lawrence l'informe qu'il doit tuer Adam avant 18h, faute de quoi son épouse et sa fille seront tuées et il sera laissé pour mort dans cette pièce. Lawrence comprend que leur ravisseur est le tueur aux puzzles, qui n'assassine jamais directement ses victimes, mais les met dans des situations qui les poussent à le faire elles-mêmes. Son idée est que ses victimes survivent à l'épreuve avec une meilleure appréciation de la vie.
Alors le résultat cinématographique est horrifique et macabre, et pervers bien sûr. Faire se tuer des gens entre eux pour ne pas se salir les mains revêt un aspect particulièrement sordide, sadique même. Saw fait partie de ces films qu'énormément de gens détestent parce que la qualité du premier opus a été obscurcie dans l'esprit des cinéphiles par l'incroyable médiocrité de ses nombreuses suites. En effet, ces dernières ont laissé de côté ce qui faisait la qualité du premier opus, à savoir une intrigue pesante et intéressante, qu'on prend le temps de développer avec une galerie de personnages charismatiques et surtout un vrai suspense.
Hop, 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 hop. Quoi? Nous vous en dirons pas plus. Car à l'instar de ce que fit Hitchcock à la sortie de Psychose, l'équipe de Saw enjoint les spectateurs à ne rien dévoiler du machiavélique puzzle du film afin de ne pas gâcher le plaisir de la découverte et de la terreur, bien sûr.
Toutes les chansons dont le thème principal sont écrites par Charlize Closer, le clavier du groupe Nine Inch Nails.
Tiens, tiens, bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Ben oui, c'est vrai. Souvenez-vous, Jean-Jacques, vous qui êtes à peu près de mon âge, il y a quelques années, à la télévision française, il y avait une émission qui s'appelait La séquence du spectateur, qui encourageait donc les téléspectateurs à aller dans les salles de cinéma pour aller voir des films dans les salles de cinéma. Eh bien, c'est ce que nous vous invitons à faire maintenant, à écouter cette chronique qui s'appelle Les sorties de demain.
Pour les films qui sortent demain sur
les films qui sortent demain au cinéma, oui, d'accord, tout à fait.
Oui, et alors ?
Eh bien, voilà.
D'accord, merci.
Je vous en prie. Merci.
C'était une chronique impressionnante. Bon, eh bien, alors, voilà.
Qu'est-ce que vous avez proposé, Anne-Lise ?
Eh bien, moi, j'ai un film.
Japonais, je suis sûr.
Voilà, tout à fait. Écoutez. Alors, un film qui a été élu meilleur film de l'année au Japon et plus beau film.
Par les Japonais eux-mêmes.
Par les Japonais au Japon. Ça, c'est il s'appelle Jusqu'à l'aube. Ça a l'air d'être un très joli film.
D'accord.
L'histoire, c'est Misa et Takatoshi ne se connaissent pas encore lorsqu'ils rejoignent une petite entreprise japonaise d'astronomie. En quête d'un nouvel équilibre, ils ont délaissé une carrière toute tracée. Elle, en raison d'un syndrome prémenstruel qui bouleverse son quotidien. Lui, à cause de crises de panique aiguës. Peu à peu, ils apprennent à travailler autrement, se rapprochent, s'apprivoisent et découvrent qu'une présence suffit parfois à éclairer la nuit. Alors, on n'est pas dans un film qui va à une vitesse folle. On suit ces deux personnages qui... On suit leur passé, le pourquoi est-ce qu'ils sont là et puis comment est-ce qu'ils vont trouver à se connaître et à travailler ensemble malgré leurs différences.
Ça a l'air d'être... Et se rapprocher un peu quand même aussi.
Et se rapprocher un peu, oui.
C'est un peu Nuit Blanche à Seattle, mais version japonaise.
Non, pas tout à fait. On est plus loin quand même, c'est un peu plus introspectif.
D'accord.
Enfin, en tout cas, ça a l'air d'être un petit peu plus introspectif.
Oui, je comprends.
Donc ça s'appelle Jusqu'à l'aube, c'est d'accord. De Shio Miyake.
Ah oui.
Et ça sort demain en salle.
Ben oui, c'est parfait.
Bon, voilà. Après,
Jean-Jacques.
Bon, moi je vous propose un film français.
Ben moi j'ai le 1 ou le 2 si vous voulez. Vous voulez lequel ?
Moi je vous propose un film français donc, qui s'appelle L'affaire Bojarski.
C'est étonnant.
C'est étonnant. Hein.
C'est réalisé par Jean-Paul Salomé. Vous savez, Jean-Paul Salomé, c'est celui qui avait fait Arsène Lupin avec Romain Duris ou La Daronne avec Isabelle Huppert.
Oui.
Alors, je vous donne le pitch du film. Hein. Le Jan Bojarski en question est un jeune réfugié polonais qui devient dans la France de l'après-guerre le plus grand faux-monnayeur de tous les temps. On le surnommait le Cézanne de la fausse monnaie. Et bien, figurez-vous que pendant 15 ans, il va mener une double vie à l'insu de sa famille en fabriquant seul dans un cabanon au fond du jardin des contrefaçons plus vraies que les billets sortis de la Banque de France. Ils s'en faisaient un point d'honneur de les réussir.
Et qu'ils étaient infalsifiables, d'après eux.
Et absolument. Alors, comment, pendant toutes ces années, ce faussaire hors pair réussira à éviter de tomber dans les filets de la police et deviendra la bête noire du commissaire Mattei au cours d'une traque qui, pour ces deux obsessionnels, tournera au duel. C'est le sujet du film, en fait. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie. Le jeune Jan Bojarski en question a vraiment vécu. Et le film, lui, est interprété par l'excellent Reda Kateb,
tout à fait.
Sarah Giraudot, Bastien Bouillon,
et Pierre Lottin.
Voilà. C'est l'affaire Bojarski. Bon film.
Bah, figurez-vous que je l'avais également dans mon panel, fort heureusement.
Et donc vous allez nous sortir quoi ?
Je vais sortir un deuxième film.
Allez-y.
Eh bien, c'est un film de Abdel Malik.
Ah tiens donc, il a réalisé.
Il a réalisé un film, Abdel Malik, un film qui s'appelle « Fursi n'est libre ».
D'accord.
Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose un petit peu. C'est avec Matika Samba, Romain Duris, Anna Girardot, et il y a plein de gens extrêmement intéressants. C'est pour tout public, mais quand même avec un avertissement. Hein. Bon, il y a quand même certaines séquences qui sont un peu violentes. Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l'esclave Fursi découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l'aide d'un procureur abolitionniste, il se lance donc dans la bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits. C'est inspiré d'une histoire vraie, adaptée du livre « L'affaire de l'esclave Fursi » de Mohamed Aissaoui. Moi, j'y vois quand même une certaine ressemblance avec « 12 Years a Slave », sauf que là, on interroge le passé colonial de la France et non pas le passé colonial des États-Unis. J'ai vu quelques images. Effectivement, l'avertissement me semble justifié. C'est un film qui va être dur par moment, dur par endroit, mais pas dur dans le propos, parce que réduire l'esclavage, c'est quand même une noble cause.
Tout
donc voilà, merci à ces gens qui ont œuvré pour ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Mais je vous en prie, Annie, ça fait plaisir.
Eh bien, voilà.
Oui, quoi,
si naissance est déjà finie. Jusqu'à ce que tout recommence.
Ah, bah oui.
Et vous allez pouvoir retourner écouter les chaînes d'information, nous abreuver de conflits mondiaux, prévoir des kits de survie et autres petites astuces pour se préserver du changement climatique. Mais dans tout ça, n'oubliez pas malgré tout d'écouter nos podcasts disponibles sur le site internet d'Ode Radio, mais aussi nous suivre pour une actualité positive sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, pour l'épisode numéro 14 de Ciné 100, nous accueillerons une invitée qui viendra échanger avec nous, avec vous, sur ses préférences cinématographiques.
Eh bien, figurez-vous que ce sera à 14h sur O2 Radio 91.3, bien entendu.
En attendant, la semaine prochaine, on se quitte avec la perle musicale du jour, dénichée par Jean-Jacques. Une chanson qui, j'en suis sûre, s'entendra jusqu'au-delà des étoiles.
Oh là. Oui.
Alors écoutez, Bob, d'une certaine façon, nous allons rester à la fois dans l'horreur et dans la période des vœux pour 2026.
D'accord.
En 1955, la jeune Zézette chantait la chanson du Nouvel An.
Mm-hmm.
Voilà, tout ça avec une voix qui pourrait faire flipper et une chanson qui pourrait très bien être une comptine de film d'horreur.
Oh, génial.
Bon, alors n'y voyez pour autant aucune mauvaise intention de ma part. Il s'agit juste de vous souhaiter une bonne année 2026.
Allez, à mardi prochain et en attendant.
Bon vent à tous.
Bonne et heureuse année à toutes les grands-mères, aux mamans de la terre, aux papas bien-aimés, que Dieu veuille inonder de sa bonté profonde les orphelins du monde, sans feu et sans foyer. À l'horloge du temps, 12 mois vont sonner, qu'il soit fait de bonheur, de travail, de santé. Au papa bien-aimé, aux mamans de la terre, à toutes les grand-mères, bonne et heureuse année. Il est une coutume très ancienne d'ailleurs, qui chaque année rallume l'espoir dans tous les cœurs. Terminant le voyage, décembre est essoufflé, janvier avec courage arrive décidé. Bonne et heureuse année à toutes les grand-mères, aux mamans de la terre, aux papas bien-aimés, que Dieu veuille inonder de sa bonté profonde les orphelins du monde, sans pain et sans foyer. À l'horloge du temps, 12 mois vont sonner, qu'il soit fait de bonheur, de travail, de santé. Au papa bien-aimé, aux mamans de la terre, à toutes les grand-mères, bonne et heureuse année. Bien sûr, à cette époque, on reçoit des joujoux, des cadeaux, des breloques, des bonbons de frifou. Les plus belles étrennes des enfants, croyez-moi, ce sont les baisers mêmes de maman et papa. Bonne et heureuse année à toutes les grand-mères, aux mamans de la terre, aux papas bien-aimés, que Dieu veuille inonder de sa bonté profonde les orphelins du monde, sans paix et sans foyer. À l'horloge du temps, 12 mois vont sonner, qu'il soit fait de bonheur, de travail, de santé. Au papa bien-aimé, aux mamans de la terre, à toutes les grand-mères.